pour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 13 juin 1936, Billancourt enterre Madame la Grève. Dans l'après-midi du samedi 13 juin 1936, une sourde rumeur monte de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. Sur la place nationale, décorée de banderoles, drapeaux et affiches, débouche un cortège extravagant. Alfred Coste, le député communiste, André Morizet, le sénateur-maire socialiste, et l'ensemble des élus municipaux marchent en tête, suivis des militants du comité de grève chargé de gerbes rouges. Puis, sur des chars fleuris, décorés de feuillages et d'emblèmes, s'avancent fanfare en tête des tableaux vivants. Ici, la République, en bonnet phrygien, soutenu par un marin, un cultivateur et un forgeron. Là, la paix, terrassant la guerre, figurée par un gladiateur. Plus loin, des rosières, précède un groupe de jeunes grimés en bolchevique au couteau entre les dents. Un mannequin, œuvre de menuisier de l'atelier de carrosserie, figure la semaine de 48 heures. Il est rapidement incendié. Le clou du spectacle est une parodie de l'Église catholique, des ouvriers vêtus en ecclésiastique, suivis d'enfants de chœur en soutane, mettent en scène l'enterrement de Madame la Grève et du Capital. Derrière ce corso, plus de 30 000 ouvriers et ouvrières défilent atelier par atelier. Une véritable marée humaine sillonne Boulogne-Billancourt. Au-dessus des têtes aussi les portraits de Marcel Cachin, Léon Blum, Édouard Herriot, Alfred Coste et des calicots aux revendications éloquentes. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Vive les vacances. Renault CGT, pain, paix, travail. Les manifestants chantent la Marseillaise, l'Internationale, mais aussi « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Partout, c'est une explosion de joie. L'utopie est devenue réalité. Tout a débuté le 3 mai, le jour où le Front populaire remporte les élections législatives. Sans attendre que Léon Blum forme son gouvernement et présente à la Chambre des députés son programme de réforme sociale, les masses populaires crient dans toute la France « Ce que nous voulons, nous l'aurons ». En région parisienne, la grève commence dans l'aéronautique, chez Breguet, Latécoère, Bloch, Nieuport et encore Farman. Les camarades de chez Renault restent à la traîne. L'atelier de montage débraye le 28 mai au cri de 40 heures congés payés, convention collective. Comme dans un ballet, la foule des ouvriers traverse le pont pour s'emparer du bâtiment de la direction. Des piquets de grève sont placés aux portes de l'usine qui est occupée. Les chaînes de montage sont arrêtées, mais les ouvriers veillent sur leur outil de travail. Ils briquent, graissent et bichonnent leurs précieuses machines. Louis Renault, réfugié à la campagne, se défausse sur son neveu François Le Hideux, chargé des affaires sociales. C'est à lui que les délégués ouvriers présentent leurs revendications. Semaine de 40 heures, congés payés, augmentation des salaires. Après de longues négociations, il accepte le relèvement des plus bas salaires, mais selon lui, les autres sujets relèvent de la compétence du syndicat patronal. Malgré ses réserves, François Le Hideux obtient la reprise du travail pour le 2 juin. La grève semble terminée, l'Humanité titre alors « Victoire chez Renault ». Cependant, le jour de la reprise, les conversations sont animées. Les ouvriers se sentent floués. Le 4 juin, ils se remettent en grève. Craignant un débordement de sa base, le comité de grève communiste reprend la situation en main. Il organise une collecte de fonds et assure le ravitaillement des grévistes. Il propose également des distractions, des comédiens, des chanteurs et des cinéastes viennent dans l'usine où règne une chaude ambiance avec des tournois de belotes, des courses à pied et à vélo. Les ouvriers dansent au son de l'accordéon et d'un trio de jazz. François Le Hideux fait de nouvelles concessions. Élection de délégués du personnel, introduction des congés payés. Mais le mouvement social déborde maintenant les usines Renault pour s'étendre à toute la France. En un mois seulement, le monde industriel bascule. Le comité des forges sollicite la médiation du gouvernement. Durant la nuit du 7 au 8 juin 1936, au terme de 9 heures de discussion serrée, Léon Blum arrache un accord sur des conventions collectives du travail, sur la liberté pour les travailleurs d'adhérer aux syndicats de leur choix, sur le réajustement des salaires et l'instauration de délégués ouvriers. Les accords Matignon n'arrêtent pas le mouvement de grève. À Boulogne-Billancourt, les ouvriers continuent de jouer aux cartes ou aux boules. Ils se promènent avec des pancartes et des mannequins pendus à l'effigie de Louis Renault. Une convention collective de la métallurgie institue les 2 semaines de congés payés. La semaine de 40 heures payée 48, la mensualisation des contremaîtres. Elle augmente les salaires de 15% et reconnaît les droits des délégués ouvriers. Dans ces conditions, le 11 juin, le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, déclare « Il faut savoir arrêter une grève dès que satisfaction a été obtenue. Il faut savoir consentir au compromis, même si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées du moment que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentiels. » Le lendemain, le comité de grève de Billancourt fixe au 13 juin l'évacuation de l'usine, accompagnée du défilé de la victoire. Le lundi 15 juin, le travail reprend normalement dans une usine propre où seules quelques guirlandes de papier coloré marquent les espaces dédiés à la danse. Rien n'est plus comme avant. De tous les acquis sociaux de juin 1936, les 40 heures sont les plus contestées. Leur application rigide, sans variation saisonnière, oblige Renault à recruter 5000 ouvriers supplémentaires dénués de formation. Face au péril pour la défense nationale de la guerre d'Espagne et du réarmement de l'Allemagne, il faut y renoncer dès 1938. La durée de la semaine de travail remonte alors à 48 heures pour redescendre à 47 heures en 1965 et 44 heures en 1969. En revanche, les congés payés sont le symbole de la libération d'une classe ouvrière. Avant le Front populaire, seuls les cadres profitaient de 15 jours de congés sans solde. Au lendemain des accords Matignon, tous les ouvriers de France bénéficient des congés payés. Leur durée passe à 3 semaines en 1956, 4 semaines en 1969 et 5 semaines en 1982. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver Emmanuel pour la chronique littéraire « Un jour, 3 livres ». Ce sera exceptionnellement 2 livres aujourd'hui, 2 livres, je crois, de mêmes auteurs et de même objet littéraire. Nous allons écouter Alain Souchon, un titre de 1977 dans l'album Jamais content, Allô maman Bobo.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall, je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de Bretzel et beurre salé. Ce sont des enquêtes policières écrites à quatre mains par une Alsacienne et un Breton, mettant en scène les différentes habitudes, notamment gastronomiques, entre l'Alsace et la Bretagne. C'est aussi une peinture très réaliste de la vie villageoise, balançant entre la bienveillance et les ragots. Donc c'est les deux premiers tomes et d'une série que l'on espère se poursuivant au fil du temps. Le tome 1, c'est Enquête à Locmaria. La plus belle maison de Locmaria à la pointe de Kerbra vient d'être achetée par Cathy Wald, une Strasbourgeoise de 50 ans, récemment divorcée, au fort caractère, qui a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne. Elle décide d'y ouvrir un restaurant de spécialité alsacienne et après une soirée choucroute, un notable du village s'effondre et elle est accusée de l'avoir empoisonnée. Et la voilà lancée sur la trace du coupable, d'une part pour prouver son innocence, mais aussi la qualité de sa choucroute. Donc, enquête à Locmaria. Le tome 2, une pilule difficile à avaler. Cathy découvre un cadavre jeté par la mer sur la plage la plus proche de sa maison. Et les rumeurs repartent de plus belle. Première rumeur, avant l'arrivée de Cathy, il n'y avait jamais eu de mort suspecte. Deuxième rumeur, depuis son arrivée, un nouveau trafic de drogue est mis en œuvre. Troisième rumeur, on ne sait pas d'où vient son argent. Cathy n'a pas le choix. Elle est obligée, aidée de Yann, son ami, d'affronter des ennemis sans scrupules et je dirais même les ragots malfaisants. Donc, Bretzel et beurre salé, tome 1, une enquête à Locmaria, tome 2, une pilule difficile à avaler, de Margot et Jean Le Moal. C'est vraiment une série policière qui allie à la fois Bretagne et Alsace. Et c'est croustillant, je vous le conseille, pour cette période, c'est tout à fait agréable. Et j'espère d'ailleurs pouvoir bientôt vous présenter le tome 3.
Et nous nous séparons en chanson avec toujours Alain Souchon. Nous écoutons un titre de cette même année, 1977, dans l'album « Jamais content, il y a de la rumba dans l'air ».
Amore, vieni ballare, a te je sais. I love you.
Carino.
Il y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie. Des guili-guili, des Bugatti. Des oh la la la, des soirées de gala. Riviera.
Carino.
Y'a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Fermez les yeux des grandes filles bleues marines, tout à languie pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresses du matin, chagrin. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire.
Thank you.